France Info.
Bonjour Richard Orlinski.
Bonjour.
En 2015, Artprice vous a désigné comme étant l'artiste contemporain français le plus vendu dans le monde avec des acheteurs collectionneurs qui s'appellent Paul McCartney, Harrison Ford, Sharon Stone ou encore Pharrell Williams, des petits nouveaux. Sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi d'ailleurs par plus de 9,5 millions d'abonnés. Vous êtes ce sculpteur imprégné de pop culture à la tête d'un bestiaire emblématique, facetté et coloré, constitué de gorilles hurlants, de crocodiles, de requins, de panthères et autres animaux sauvages, dits indomptables qui se déclinent dans toutes les tailles, donc en marge des circuits balisés de l'art contemporain. D'ailleurs, vos créations tournent autour d'une question, qui de la bête ou de l'humain est le plus sauvage? C'est après un burn-out, à l'âge de 38 ans, que vous avez décidé de tout vendre, de repartir de zéro et de revenir à ce qui vous était le plus essentiel pour vous et depuis votre plus jeune âge, donc c'est-à-dire l'art. C'est avec votre série Burn Wild que vous avez été repéré. C'est d'ailleurs cette série qui vous a apporté presque instantanément une renommée mondiale. Aujourd'hui, vous publiez Rétrospective. C'est un récit autobiographique. C'est un moyen, en tout cas, de plonger dans votre total univers, avec à l'intérieur quelques clés pour mieux comprendre l'importance et la présence de l'art dans votre vie. Vous commencez en racontant votre petite enfance. Vous dites qu'à 4 ans, vous aviez déjà commencé à jouer avec la pâte à modeler, à façonner à la fois des animaux, donc notamment des hippopotames, mais aussi des pianos, parce que vous êtes aussi DJ et musicien. C'est quoi le point de départ et le déclic, en tout cas, ce qui vous a fait tomber amoureux de l'art?
Tout petit, c'était pas de la pâte à modeler, c'était plutôt de la terre glaise, en fait, comme on faisait quand on est gamin à l'école maternelle. Et on avait des ateliers de poterie à l'époque, et donc effectivement, on faisait de la terre glaise qu'on faisait ensuite cuire. Donc ça avait un côté comme... Moi, j'ai toujours aimé le côté pérenne des choses. Et en fait, je pense que c'était plutôt parce que j'étais faillot quand j'étais petit et que j'offrais en fait des éléphants, des hippopotames, effectivement, des pianos aux maîtresses, aux directrices, etc. Donc, il y avait une envie de créer, une envie de donner, une envie de partager, une envie d'être vu, peut-être remarqué, je pense, avec le recul. Hein, je dis ça parce qu'à l'époque, j'en sais rien, puisque je ne me rappelle pas quand j'avais 4 ans. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose, en tout cas, et puis la nature, enfin, un amour de la nature et de ces animaux. Alors, à l'époque, c'était plus des animaux qui étaient dans ma tête sympathiques, parce que l'éléphant, c'est quand même si c'est pas si sympathique que ça dans la réalité, c'est quand même, pour un enfant en tout cas, quand on est des enfants du livre de la jungle, c'est des personnages qui sont, des caractères qui sont sympathiques. Après, je me suis plus intéressé au côté plus sauvage du monde animal, avec des bêtes beaucoup plus féroces, et donc en essayant d'exacerber la violence. Et ce que je voulais à l'époque, c'était montrer que, quelque part, nous les humains, avec toujours nos conseils et toujours notre côté dominateur, on avait beaucoup de choses à apprendre des animaux, parce que eux, ils tuent pour se nourrir, donc ils obéissent à un cercle vertueux de la vie, et nous, on obéit plutôt à un cercle vicieux, puisque nous, on tue pour n'importe quoi. Il y a des guerres et tout. Donc, je me disais qu'il y avait une réflexion, en tout cas, et Bernouel, c'est ça la réflexion en réalité, c'est de se dire que peut-être on n'est pas si intelligent que ça, il y en a peut-être des choses à apprendre de la nature et des animaux.
Vous avez toujours gardé votre regard d'enfant et aussi ce besoin, effectivement, de parler de la nature. Après le bac, vous avez travaillé dans la téléphonie, dans la papeterie, vous avez monté votre propre boîte avec cette envie un peu de rendre un peu plus fun les objets qu'on pouvait avoir de bureau. Et puis, vous avez travaillé beaucoup sur l'architecture d'intérieur. Au fur et à mesure, vous avez commencé à acheter un peu des biens. Donc vous avez commencé à vous construire et puis il y a ce burn-out qui arrive quand vous avez 38 ans, vous en avez plein le dos, c'est plus possible pour vous de travailler dans ces conditions et vous décidez finalement de redémarrer complètement à zéro.
Alors oui, alors burn-out, je ne sais pas si c'est un vrai burn-out, en tout cas c'est une accumulation et un point de bascule, parce qu'en réalité je ne pense pas qu'il peut y avoir aujourd'hui, et le burn-out c'est une maturation de plein d'événements, en fait c'est le temps qui passe et c'est la cocotte minute qui gonfle et puis vraiment ça explose. C'est pas un point comme ça où du jour au lendemain on voit une lumière et on est appelé par quelque chose. Je pense que c'était une accumulation et que c'est vrai que j'étais très mal dans le costume que je portais, même s'il y avait une pseudo-réussite sociale, mais j'étais pas du tout, j'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 1 ou 2%, et j'étais triste finalement, j'étais pas à l'aise. Et donc du coup, j'ai eu une réflexion et j'ai dit, bon, bah, ça y est. D'ailleurs, j'ai pris cette décision un petit peu contre tout le monde, parce que j'étais comme très critiqué. Quand t'as une vie plus ou moins qui fonctionne, c'est compliqué. Les gens n'aiment pas le changement, on a du mal à changer aujourd'hui. J'ai pris cette décision de revenir à l'essentiel, ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie, et c'est là où je me suis lancé dans cette carrière artistique. J'aurais pu commencer par autre chose, parce que étant plus jeune, je m'étais dirigé vers des carrières artistiques, théâtre, cinéma, musique, voilà. Et ce qui m'a semblé le plus opportune au moment où ça a été fait, c'était la sculpture. Et puis bah, après j'ai été quand même de beaucoup de déconvenues, parce que j'ai pensé qu'il fallait créer une sculpture, et puis ensuite c'était simple, on présentait sa sculpture et puis voilà. Mais en fait on se rend compte que personne nous attend et que ce monde c'est un monde impitoyable, avec beaucoup d'ego, avec beaucoup de codes, avec plein de choses, et il y a eu quand même beaucoup de déconvenues, et c'était quand même un parcours du combattant, même si vous avez fait un portrait très élogieux au départ et de success story qui a l'air extraordinaire. Il y a eu quand même beaucoup d'échecs, beaucoup de portes fermées, beaucoup de flèches jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'incompréhension. Le milieu de l'art est un petit milieu aujourd'hui avec des codes et quand on n'a pas la carte, c'est assez compliqué. Donc, je prends encore aujourd'hui beaucoup de missiles et beaucoup de contrariétés, mais c'est bon, ça fait partie de ce que j'ai accepté de faire.
Au tout départ, d'ailleurs, quand vous êtes allé voir votre premier galeriste, alors déjà, vous avez appris à faire un moule, on vous a pris un peu à part, un peu comme un bon élève, on vous a expliqué comment ça fonctionnait, vous avez fait votre premier moule, tout le monde a applaudi quand vous êtes sorti avec votre premier crocodile.
Le tirage, parce que c'est pas que le moule, c'est d'abord, il faut faire le master, ensuite, il faut faire le moule, ensuite, le tirage. C'était quand même quelque chose de... tout le monde applaudit, oui.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que le premier galeriste que vous rencontrez vous dit, bon, de toute façon, t'es pas connu, donc on va proposer à un autre artiste plus connu de signer à ta place. Vous avez refusé, vous avez confié vos œuvres à un autre galeriste qui a exposé effectivement quelques-unes de vos œuvres derrière sa vitrine. Il en a vendu quelques-unes, il ne vous a jamais payé. C'est ce que vous dites, c'est vraiment un monde de requins sans vivre dans le jeu de mots, puisque vous avez créé cet animal.
J'ai créé un requin
un peu
aussi, d'ailleurs, qui est sympathique pour le coup. C'est un monde où, en réalité, moi j'ai connu tous les mondes, donc je peux en parler. Dans le monde, on va dire, plus traditionnel, du business, c'est l'argent qui est roi, et il n'y a que l'argent finalement qui compte. Là, dans l'art, il y a l'argent et l'ego. Donc l'ego c'est très puissant. L'ego, je pense que c'est encore plus violent parce que dans les affaires de business, bon bah il faut gagner. On essaye de c'est un combat. Ça peut être un combat, oui, mais c'est un combat pour gagner, pour le succès quoi, c'est obtenir. Alors que dans l'ego, il y a des choses qui sont très personnelles. Ça renferme des choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus perverses. Puis tous les coups sont permis. Oui, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, moi je peux raconter. Alors j'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. J'explique un petit peu comment j'en suis arrivé là et je donne surtout des conseils parce que je voulais que mon expérience serve aux autres. Donc c'est surtout ça la mission de mon livre. Et je pense que je vais écrire un prochain livre bientôt où je vais un peu effectivement raconter tous ces trucs-là. Je pense qu'il y a des anecdotes. On pourrait en passer des heures et des heures parce que c'est vrai que on serait vraiment surpris de voir ce qui se passe, quoi.
En tout cas, vous avez tenu bon, hein. Effectivement, ce crocodile est arrivé. Comment il est né, ce crocodile, finalement, Richard? Je sais qu'il y a toujours ce besoin que vous avez d'associer la force parce que le crocodile a traversé finalement les aires glaciaires, à contrario des dinosaures.
360 millions d'années.
Et la fragilité aussi.
Oui,
c'est un peu le fil rouge de ce que vous proposez.
Complètement. Le cerveau répond. Je cherche aussi toujours à avoir une analogie avec ce que nous sommes, nous, parce que je pense que c'est toujours une réflexion par rapport à ce que nous sommes. On adore les animaux ont toujours été présents dans toutes les civilisations, mais plutôt parce qu'on aime les dompter, on aime être supérieur, on a toujours essayé de les mettre, voilà. Moi, j'essaie de montrer une autre facette qui est un peu différente, et le cerveau, c'est très marrant de voir comment, justement, vous parlez du crocodile, comment tous les autres animaux n'ont pas survécu. Trop grands, et c'est pas les plus forts qui ont résisté, parfois c'est tout petits animaux qui ont résisté. Le crocodile, c'est tout simplement son métabolisme. Il peut rester presque 6 mois en état d'hibernation, sans manger, sans boire, sans respirer. Voilà, donc c'est ça qui m'avait intéressé pour le crocodile. En réalité, j'étais vraiment passionné par les dinosaures quand j'étais plus petit, et je me suis dit que les dinosaures ils sont éteints. Donc comme j'aime toujours ce côté vie et que j'ai toujours besoin de cette vie, mais j'aurais préféré peut-être même faire des dinosaures, mais je me dis bon, ils sont plus là. Donc j'aurais adoré vivre à cette époque-là, et le crocodile, lui, il est toujours là, donc autant parler de quelqu'un qui est toujours là et qui on peut parler. D'ailleurs, j'ai fait mon premier JT que j'ai fait de 20h sur TF1. On a été dans dans le 12e, il y a une espèce de vivarium avec des crocodiles, et je suis descendu avec les crocodiles. On a mis un crocodile, une sculpture, on l'a mis parmi les crocodiles. C'est drôle parce que les crocos, les vrais, ont eu peur de la sculpture, et moi j'ai pas eu peur, les gens ont eu peur. Et j'ai senti, alors c'était marrant, j'en parle parce qu'il y a eu une vraie expérience. On m'a dit, il faut pas descendre parce que c'est dangereux, etc. Mais j'ai senti qu'ils feraient rien parce que c'est eux qui avaient peur. Et je suis descendu, tout le monde m'a regardé comme ça, je suis descendu carrément dans la fosse avec les crocodiles, enfin dans la fosse, dans l'endroit où étaient les crocodiles, avec de l'eau. On sent en fait les choses. Je pense que là, on est des animaux aussi, je pense qu'on sent les choses. Et c'est ma première vraie expérience où j'ai senti quelque chose qui était assez incroyable.
Ce qui ressort aussi à travers vos œuvres, c'est le choix des couleurs. Le rouge, j'en ai très fier, c'est votre couleur préférée d'ailleurs. Vous avez mis beaucoup de temps à trouver cette couleur-là. Le crocodile, vous avez mis plus de 2 ans.
Alors c'est la seule pièce où j'ai mis autant de temps finalement, parce que c'est vrai que je suis très perfectionniste, je veux toujours arriver au meilleur, et donc les doutes, alors il est trop gros, trop maigre, ça me fait penser un peu à la pub, il y a très longtemps pour la vache qui rit, où on avait toutes les vaches qui étaient trop maigres, et c'était un peu ça, moi j'arrêtais pas de refaire et de refaire et de refaire et de refaire, et c'était la première pièce, un peu comme son premier enfant. Ouais, mon premier enfant, forcément on s'en occupe plus, on est plus attentif, etc. Puis après quand t'as un deuxième, bon c'est un peu le cycle de la vie, et en fait c'est ce qui s'est passé avec le crocodile. Mais ça a été effectivement très très long parce que j'étais très exigeant, et la couleur, oui, parce que je voulais de la vie. L'animal, malheureusement, une sculpture, ça vit pas. Donc j'essaie aussi d'avoir une position qui fasse qu'on ait l'impression qu'il est toujours en action, etc. Parce que je trouve que la vie, c'est important, et la couleur aussi, ça donne la vie. Quand vous vous mettez dans un espace tout blanc, par exemple, un spot de rouge, ça vient élever, rehausser, ça donne... En tout cas, ça interroge, voilà.
C'est Andy Garcia qui va lancer votre carrière. mine de rien, Richard Orlinski. C'est lui qui va, le premier, entre guillemets, craquer sur deux, une de vos œuvres. Et qui va en parler, c'est lors du festival de Deauville, festival de cinéma américain.
Absolument.
Il va voir l'une de vos œuvres et là, il va dire, mais il en achète une, il en parle à tout le monde. Et alors là, ça va être une explosion totale pour vous. Hein.
C'est vrai. Ils sont deux. Il y a eu Sharon Stone aussi. Au même moment, puisqu'en réalité, le festival de Cannes, c'était au mois de mai-juin. Et le festival de Deauville, je crois que c'est la rentrée, septembre octobre. C'était deux momentum très importants. Et il y a eu Sharon Stone qui, sur la table, avait choisi par un de mes galéristes de mettre des sculptures pour une levée de fonds pour un de ses films et qui a craqué complètement, etc. Et ensuite il y a eu Andy Garcia, effectivement, donc c'était au même moment les deux personnes qui ont contribué. Et Andy Garcia, très marrant d'ailleurs, c'était très drôle cette scène, parce que quand j'étais en plein vernissage, il y a le patron de l'hôtel qui me fait venir, qui me dit ah, il faut venir, Andy Garcia, donc il fallait venir le voir tout de suite. Et pour tous les gens à l'époque, Andy Garcia, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais c'était quand même une légende, c'était quelqu'un de très important. Alors tout le monde était au garde à vous, les gardes du corps, le personnel, on était comme ça à traverser, parce que c'est il y a 500 mètres, je pense, entre les deux hôtels. On était peut-être une vingtaine de personnes à traverser pour aller se diriger vers la chambre d'Andy Garcia. Et quand j'arrive pour voir Andy Garcia, on nous dit, ah, désolé, il s'est endormi. Donc, il faut revenir. Et moi, je me suis pas démonté. Je dis, bah non, je reviendrai pas parce que j'ai un vernissage, etc. Et du coup, ça, tout le monde s'est choqué. Et du coup, ils ont appelé en haut et finalement, ils disent, bah, c'est bon, vous pouvez monter. Et voilà. Donc, comment s'est fait l'histoire? Et il était en peignoir, en robe de chambre. Il m'a accueilli. Je suis resté peut-être 2-3 heures avec lui, comme si j'en connaissais depuis tout le temps. Donc, c'était un moment assez fort. Et puis, il y a de l'émotion, quoi. De toute façon, c'est des gens normaux. Hein.
Il y a toujours un message qui est envoyé par l'une de vos œuvres, soit la non-violence, la défense de la cause animale, le bien-être de la planète aussi. Ça, ce sont vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. C'est votre Gorille Kong qui va vraiment faire le tour du monde. D'ailleurs, il est aujourd'hui plus connu que vous, Richard Orlinski,
oui,
ce qui est quand même assez drôle. C'est un peu le cas pour d'autres œuvres. Je pense à Philippe Geluck et à son fameux chat.
Bien sûr.
C'est une fierté, ça, d'avoir une création, l'un de vos enfants artistiques, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est vrai.
Qui dépasse le papa.
Ouais, complètement. Bah, une fierté, oui. Alors, je l'ai créé après, le crocodile, mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui ressemble toujours à nous, le silverback, le gorille à dos argenté, qui est d'ailleurs une espèce en voie de disparition. Il est très proche de nous, on a un ADN qui est plus de 99% proche du nôtre, on mange pareil, c'est quand même incroyable de voir cette similitude qui est entre nous. Puis il y avait toute l'iconographie de King Kong, moi j'étais un fan de King Kong, parce que c'est que des messages de bienveillance, de la culture pop avec Donkey Kong, donc ça réunissait quand même beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur. Et la fierté, oui, c'est sûr que c'est une fierté. Après, très copié quand même, parce que c'est fou, là, j'ai mon fils qui est à Bali, et il me dit, il y a une rue Orlinski qu'avec des copies, il y en a partout dans le monde entier. Donc ça, c'est le petit bémol sur
le petit couac.
Mais sinon, c'est vrai que oui, c'est une vraie fierté. Je suis content parce que, en plus, je peux lui faire parler, lui faire dire ce que j'ai envie. Aujourd'hui, dans le sport, il peut participer à la vie. On le voit dans le livre, pour revenir à l'ouvrage.
Il est décliné quasiment partout. Il existe même en pense à Rodin, évidemment.
Exactement. Enfin, voilà, exactement. 360, et puis en super-héros. Enfin, voilà. Donc l'avantage, c'est que il s'y prête. C'est, vu qu'il est très proche de nous, c'est comme un homme. Donc c'est un côté assez similaire.
Bon, en tout cas, c'est, j'ai l'impression, toujours, pas l'enfant préféré, mais une source d'inspiration. Parce que vous continuez à le décliner, vous continuez à vous creuser la tête. J'ai l'impression qu'il vous oblige aussi.
C'est lui qui m'oblige, parce que je vois et puis à un moment, c'est ce qui fonctionne aussi. Ça reste aussi un best-seller, donc il faut aussi vivre de ce qu'on fait. Et si on veut réaliser des projets, il faut que ça fonctionne. Et c'est vrai que le commun des mortels, les gens sont vraiment attirés par ce côté. Je pense que c'est vraiment parce qu'on s'identifie, parce qu'on a tous envie d'être King Kong en réalité, parce que King Kong, c'est quoi? Il a pas de défaut, à part ses poils peut-être, qu'on a peut-être pas envie. Mais tous les hommes aimeraient bien avoir cette puissance. Il protège dans tous les films. Il protège toujours la nature, il est incompris par l'homme, toujours la même chose, mais il protège la veuve et l'orphelin. Enfin, c'est le Zorro surpuissant. Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Finalement, il n'y en a pas. Le seul défaut, c'est qu'il est incompris par l'homme et qu'à chaque fois, il finit toujours à vouloir se faire tuer parce que on a du mal à comprendre. Mais c'est ça, quoi.
Il y a souvent de la testostérone, effectivement, dans vos œuvres, mais il y a aussi beaucoup de féminité. Je pense à la panthère. Elle vous a aussi obligé, en quelque sorte, à penser justement à ce juste équilibre, ce côté félin mais féminin.
Ah oui, pour moi, la féminité, c'est très important. D'abord, je pense que dans tout être humain ou être vivant, il y a une part de féminité. Et c'est vrai que la panthère était pensée vraiment comme une femme à la base. Et d'ailleurs, j'avais créé la panthère, c'était une femme. Elle était mêlée, il y avait une femme. J'ai enlevé la femme ensuite de la panthère pour la faire toute seule. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très important. Et puis, je suis très attaché aussi à la cause des femmes, la défense des femmes. Je suis très, très impliqué aussi. Et
vous êtes d'abord un papa. Hein. Alors là, vos enfants, vos quatre enfants sont...
Ah oui.
Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux.
C'est vrai. Je suis très proche de mes enfants. Je les ai plus qu'élevés. Et puis, on est encore très, très proches. On fait beaucoup de choses ensemble. On participe. Je les ai fait participer à toute cette aventure, finalement, qui était la mienne. Et ils m'ont soutenu. Rares étaient ceux qui m'ont soutenu, parce que beaucoup ont crié au loup quand je commençais cette carrière. Et c'est eux qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont toujours soutenu. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours là. Et dans des moments, parfois, où on ne les attend pas du tout, ils sont toujours là. Donc, c'est vrai que c'est très important.
Vous avez connu et vous continuez de connaître, effectivement, des moments assez difficiles, avec des critiques assassines, qui ne se calment pas, qui perdurent, même encore actuellement. Vous n'existez pas, ou peu, pour les critiques d'art, les galéristes, ou même les commissaires d'exposition. Vous avez été aussi traduit en justice par un artiste qui se disait copié, mais il a été débouté au tribunal.
Donc c'est surtout par une galerie, lui, je pense pas que ce soit vraiment responsable. Mais bon.
En attendant, les 25 millions qu'il vous demandait en dommages et intérêts n'ont pas été versés. Vous écrivez dans ce livre « Le microcosme parisien de l'art est hostile à mes œuvres » ou peut-être à moi-même.
Je dérange, pour plein de raisons. Je dérange parce que déjà, on casse les codes. Déjà, je dérange parce que un artiste, sculpteur, qui a des émissions de télévision, où on met, qui met des œuvres sur les plateaux, qui fait les grosses têtes, enfin, qui est présent dans le sport, qui a des partenaires dans le sport, qui se met dans le domaine de la mode. Enfin, c'est très, très clivant. Alors, c'est warholien, on va dire. Mais donc, on n'est pas prêt pour ça. D'ailleurs, Warhol était reconnu après, au début, en tant que publiciste. Enfin, voilà, il était, même Koons aujourd'hui, je dis, moi, à l'époque, c'était marrant parce qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, on disait, les œuvres dans certaines critiques, les œuvres de Linsky, c'est aussi terrible ou incroyable que, ou moche. Que on me citait dans le même lot. Mais moi, j'étais content, finalement, d'être associé à Jeff Koons, même dans la critique. Mais je dérange, oui, parce que ben, la présence, vous parliez des, sur les réseaux sociaux. En fait, dès qu'on fait quelque chose, ça dérange. Il faut rester, je pense, dans son coin. Et, ou alors être pas mort, mais être connu de post-mortem, peut-être. Là, on est plus, c'est mieux, quoi. Mais je pense que c'est un peu en train de changer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes, peut-être pas en France, mais en tout cas, de plus en plus d'artistes qui commencent à exister de leur vivant et qui font des choses différentes. Mais je suis pas le seul en vrai, parce qu'on parle de moi, mais c'est parce que je suis peut-être le plus vu. Mais si vous saviez le nombre d'artistes qui sont refusés dans les salons, dans les foires, etc. Alors toutes ces foires, elles avaient été faites justement pour faire la promotion d'artistes. Et les Français, le pire, parce que en français, on est pas chauvin. Vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, c'est que des ils protègent leurs artistes. Ou même en Angleterre. Chez nous, quand vous êtes dans des grands raouts de l'art contemporain, il y a très peu d'artistes français. On préfère prendre un Indien inconnu, typiquement, ou un Slovaque ou un Ukrainien inconnu que de prendre un Français. Donc il y a un côté aussi un peu snobisme d'entre-soi. Enfin, et il y a une anecdote que je vais raconter qui est très drôle, c'est qu'on me raconte, j'ai des amis qui me racontent que souvent ils vont dans des très beaux appartements et ils voient, tiens, ah, t'as une œuvre dans l'inski. Et les gens disent, ah non, mais ça c'est pas moi, c'est ma femme qui l'a acheté. On s'excuse presque de collectionner une œuvre. Donc c'est assez drôle parce que de l'avoir et de ne pas assumer le fait de, c'est pas la bienséance, c'est pas correct d'avoir une œuvre. Mais ils en ont.
Vous en riez, mais est-ce que ça vous affecte?
Ça m'a affecté. Ça m'affecte plus du tout parce qu'aujourd'hui c'est mon fonds de commerce. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais plus ça, ça me dérangerait. Au début, je n'osais pas dire qui j'étais, je me cachais. C'était terrible pour moi de pas être reconnu par mes pairs. J'ai été quand même viré manu militari de la FIAC en 2006, alors que j'étais rentré tout à fait de manière normale parce que les exposants se plaignaient parce qu'il y avait beaucoup plus de monde dans mon stand que dans leur. J'étais pas passé par la voie normale puisque j'étais passé par
le cursus.
J'étais passé par la commissaire d'exposition. C'était pour justement vendre ses œuvres au profit d'une association caritative pour les enfants malades. Et donc le vendredi après-midi, on m'a prié de faire mes bagages avec les camions et tout. J'avais rien, moi, à l'époque. Je me débrouillais avec les uns, les autres, le déménagement. Enfin, c'est terrible, quand même, ce genre de choses. Donc, au début, oui, j'en souffrais. Et puis après, j'ai compris. J'ai rencontré d'autres artistes dans d'autres milieux qui m'ont expliqué qu'on ne fallait pas prendre ombrage. C'est David Guetta, d'ailleurs, qui m'avait parlé de ça à l'époque. Et du coup, à la fin, voilà, je l'ai assumé. Alors, c'était pas d'un coup, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, presque, j'ai pas envie de dire, ça me fait plaisir. Mais quand j'ai deux pages dans Beaux-Arts qui me défoncent, qui me critiquent, je dis, de toute façon, j'aurais pas eu d'autre manière de les avoir. Donc, finalement, c'est que j'existe quand même. On prend la peine de mettre deux pages dans Beaux-Arts pour critiquer et avoir des critiques très très incendiaires à mon endroit, je prends ça comme une récompense.
Ce qui vous plaît, je vous cite, c'est de sublimer la réalité et créer des œuvres d'art vivantes, belles et intemporelles, qui suscitent l'émotion dans le regard de l'autre. C'est le nerf de la guerre pour vous.
L'émotion, oui, le partage avec le plus grand nombre. Grâce à Disney, ces petites figurines, ces petites reproductions qui sont accessibles à tout un chacun et qui sont donc pour quelques dizaines d'euros, c'était vraiment de pouvoir faire de l'art populaire, de rentrer chez Monsieur et Madame Tout le Monde et d'avoir cette fierté de pouvoir avoir quelque chose qui est, voilà, les photos aussi, les expositions à ciel ouvert, où gratuitement j'amène le musée aux spectateurs sans payer, sans avoir besoin de connaître quoi que ce soit, juste un impact émotionnel, un partage. Et quand je vois les enfants, la banane qu'ils ont, ou quand ils nourrissent les animaux, les millions de photos qui sont faites à travers le monde, je me dis, c'est un vrai succès. Et d'écouter même, quand on écoute, quand on est à côté des sculptures et qu'on voit les gens se prendre en photo et qu'ils allaient écouter ce qu'ils racontent, c'est très drôle.
Votre but aujourd'hui, c'est de créer un incubateur consacré aux artistes. Vous avez déjà en 2021 créé une émission dans laquelle vous alliez proposer justement de donner un coup de pouce à des artistes émergents.
Sur les murs.
De quoi s'agit-il? C'est quoi cet incubateur?
Alors là, j'ai une nouvelle émission qui s'appelle Génération F. Alors j'ai plusieurs émissions, j'ai Génération F et j'ai une autre émission qui s'appelle Première fois au musée où j'amène des jeunes adultes entre 18 et 25 ans où je leur fais découvrir le musée. Et c'est des adultes qui sont hermétiques complètement, l'art, laisse tomber, jamais j'irai dans un musée, issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Et vraiment, ils sont très, on choisit vraiment, enfin, un casting de gens hyper réfractaires, quoi, qui disent, tu leur parles pas d'art, quoi. Et donc, je les amène au musée et ce qui est incroyable, c'est de voir cette transformation, quoi. C'est de voir, c'est à la fin, ils pleurent, ils veulent revenir, etc. Parce que moi, j'ai une approche très urbaine. Je suis aussi dans le, on en a parlé peut-être tout à l'heure dans la musique, dans l'urbain aussi, dans le rap. Donc, j'ai ces approches. Donc, je suis comme eux. Je viens pas leur donner des leçons. Je viens, et quand j'aime pas. Et donc, il y a une espèce de confiance qui se lie. On a évidemment un conservateur de musée qui nous explique certaines choses. Et donc, on rentre dans une aventure et de voir cette chose, c'est incroyable. Et derrière tout ça, l'incubateur, c'est aussi d'aider aussi maintenant à travers ces émissions, d'aider aussi des talents émergents francophones à travers le monde et de les essayer de partager avec mon réseau et les réseaux que tous les gens, friends and family, Orlinski, pourront avoir, essayer de les faire émerger dans leur domaine. Ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, des talents, de la chanson. Il n'y a pas de règle. Du moment qu'on a un talent, quelque chose qu'on veut exprimer, nous, on va être là essayer de donner de la visibilité.
C'est votre côté Heartbeat. C'est le titre de votre premier single qui a énormément bien marché d'ailleurs, avec la voix d'Eva Simon, et il y avait c'était Tefa hein, qui était derrière, non?
Exactement.
C'est ça, hein. Merci beaucoup Richard Orlinski d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Rétrospective et c'est paru chez Grunt. Merci beaucoup.
Merci.